Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 9 octobre. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
En Guinée, incertitude sur la présidentielle de dimanche.
En République centrafricaine, démission du président de l'Autorité nationale des élections.
En République démocratique du Congo, interdiction de la manifestation de la plateforme d'opposition du G7 samedi à Lubumbashi.
Libye, l'émissaire de l'ONU annonce la formation d'un gouvernement d'union nationale.
Ici à Washington, le favori Kevin McCarthy retire sa candidature à la présidence de la Chambre des représentants face à l'opposition des républicains purs et durs.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. L'incertitude planait hier sur l'élection présidentielle en Guinée prévue dimanche, non seulement sur les chances du sortant Alpha Condé d'être réélu au premier tour, mais aussi sur l'acceptation du résultat par l'opposition. Henri Francisque.
La campagne est entrée dans sa dernière ligne droite avec les ultimes meetings de campagne des principaux candidats de retour dans la capitale après avoir bouclé leur tournée dans l'intérieur du pays, dont le chef de l'opposition, Sélou Dalein Diallo. Selon l'AFP, M. Diallo a de nouveau exigé un report du scrutin pour permettre à des experts électoraux désignés par la communauté internationale de rectifier les listes électorales qu'il estime truquées en faveur du pouvoir, notamment par l'inscription de mineurs. On ne participera pas à une mascarade électorale. Sinon, on n'acceptera pas les résultats et je mobiliserai, avec tous les autres candidats, la population pour refuser à assurer Sélou Dalein Diallo. La campagne du président Condé s'est fixé l'objectif ambitieux sous le slogan « d'un coup KO » de le faire réélire dès le premier tour. D'ailleurs, ont opposé hier à Conakry ses partisans à ceux de M. Diallo. La police a usé de gaz lacrymogène pour les disperser. La CENI s'est dite prête pour le scrutin dimanche, tout en reconnaissant d'importantes disparités quant à l'avancement de la distribution des cartes d'électeurs.
En Centrafrique, le président de l'Autorité nationale des élections, Dieudonné Kombo Yaya, a démissionné de ses fonctions. Cette démission, qui fait suite à celle du vice-président Godefroy Moka-Manédé, il y a environ 2 mois, intervient au moment où la République centrafricaine est entrée dans le processus électoral censé mettre fin à la transition. Joint par Félix Yepassis Zembrou, M. Kombo Yaya explique les raisons de sa démission.
Écoutez, j'ai démissionné parce que je pense que le délai qui est imparti aujourd'hui pour organiser les élections n'est pas tenable. Vous vous rappellerez que nous avions préparé à l'époque un premier chronogramme qui n'avait pas été exécuté pour les raisons que vous savez. Nous avons fait un deuxième chronogramme qui n'a pas non plus été mis en application pour certaines différentes raisons. Alors, le troisième chronogramme n'a pas pu être exécuté non plus. Et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer un chronogramme pour aller aux élections et sortir de crise. Et nous avons pensé que ce serait le dernier chronogramme. Mais malheureusement, aujourd'hui, le politique s'en mêle.
En République démocratique du Congo, les autorités ont interdit la manifestation que voulait organiser samedi à Lubumbashi, dans le sud du pays, une plateforme de 7 partis d'opposition formée après une dissidence au sein de la majorité, a appris hier l'AFP de sources officielles. Cette plateforme du G7 a dénoncé la volonté avérée, selon elle, du président Joseph Kabila de se cramponner au pouvoir pour un troisième mandat inconstitutionnel. Olivier Kamitatou, membre dirigeant du G7, a qualifié de maladroite l'interdiction de la manifestation, estimant qu'elle contredit, je cite, « tout ce qui nie, toute honte bue, l'existence des violations répétées contre les droits d'expression et de manifestation ». Fin de citation.
Et par ailleurs, controverse en RDC, où le gouvernement accuse les casques bleus d'avoir tué 5 civils dans une opération militaire dans l'est du pays, ce que dément la mission de l'ONU, la MONUSCO. Les précisions d'Eddie Isango.
La mission de l'ONU en RDC a conclu après enquête que les allégations congolaises ne sont pas exactes, a déclaré à New York le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric. Mardi, la MONUSCO avait annoncé avoir déployé, dans le cadre de son mandat de protection des civils, des hélicoptères de combat contre des rebelles qui incendiaient des villages depuis plusieurs jours en territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Les porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, que cite l'AFP, a fait état des 5 civils tués et déploré que les casques bleus n'aient pas coordonné l'opération avec l'armée nationale. Selon le porte-parole onusien Stéphane Dujarric, une équipe des casques bleus et des responsables locaux rendus sur place a confirmé la mort d'un combattant. Face à cette controverse, Juvenal Mounoubo, député national originaire de Walikale, a appelé à une enquête indépendante pour faire la lumière sur l'affaire.
Alarme sanitaire au Nigeria où 10 personnes ont été placées en quarantaine dans la ville méridionale de Calabar après avoir été en contact avec un malade présentant des symptômes similaires à ceux de l'Ebola. Les précisions de Michel Joseph.
Des responsables de la santé du pays, que cite l'agence Reuters, en ont fait l'annonce hier. Un malade présentant des signes de l'Ebola avait été emmené au centre hospitalier universitaire de Calabar mercredi. Des médias locaux rapportent qu'il est décédé par la suite, mais la nature de sa maladie n'a pas pu être officiellement confirmée. Le directeur médical du centre hospitalier de Calabar, Kenneth Kalu, a fait savoir que le sang du malade a été prélevé aux fins d'analyse. Par précaution, 10 personnes ayant été en contact avec lui ont été placées en quarantaine. L'Ebola s'était déclaré au Nigeria en juillet de l'année dernière lorsqu'un homme d'affaires libérien malade s'était effondré à l'aéroport de Lagos. La prompte réaction des services de santé nigérians a permis de contenir le virus et le pays a été déclaré libre de la fièvre hémorragique en octobre 2014.
L'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Bernardino León, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi la formation d'un gouvernement libyen d'union nationale présidé par Fayez El-Sarraj et 3 vice-premiers ministres, Ahmad Meitig, Fatih El-Mejbri et Moussa El-Koni. Après une année d'efforts déployés dans ce processus, avec plus de 150 personnalités libyennes représentant toutes les régions, le moment est enfin venu pour que nous puissions proposer la formation d'un gouvernement d'unité nationale, a déclaré M. León au cours d'une conférence de presse à Skhirat, au Maroc, où des négociations avaient repris lundi entre les deux camps rivaux libyens.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Quelques 4 missiles de croisière russes tirés de navires de guerre en mer Caspienne ont raté leur cible en Syrie et sont tombés en Iran, ont déclaré des officiels américains sans préciser exactement où et s'ils ont fait des dégâts. Le ministère russe de la Défense a aussitôt démenti, disant que tous les missiles tirés ont atteint leur cible. Selon Moscou, les 26 missiles ont détruit 11 cibles du groupe État islamique sans causer de victimes civiles. Washington soutient pour sa part que la plupart des missiles sont tombés à Alep et autour de cette ville syrienne.
En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou a promis de sévir contre les Palestiniens responsables d'une vague d'attaques contre les Israéliens. Mais, a-t-il précisé, il ne tient pas à provoquer la colère des alliés de son pays. Monsieur Netanyahou tenait une conférence de presse spéciale hier soir en compagnie des hauts responsables de la sécurité après une autre journée sanglante au cours de laquelle au moins 5 Israéliens ont été attaqués à l'arme blanche. Selon Monsieur Netanyahou, le Hamas, l'autorité palestinienne et un groupe appelé le mouvement islamique en Israël incitent actuellement à la violence contre les Israéliens.
Qui sera le prochain président de la Chambre basse du Congrès américain, c'est-à-dire la Chambre des représentants? Jusqu'à hier jeudi, tout le monde pensait que ce serait l'actuel leader de la majorité, Kevin McCarthy. Mais à la surprise générale, ce dernier a jeté l'éponge. Cher Ruben Dorsil, pour des précisions.
Le processus devant conduire au choix du successeur de John Boehner est maintenant plus incertain que jamais. Kevin McCarthy était le clair favori. Cependant, d'autres républicains, dont des ultra-conservateurs, avaient publiquement annoncé leur opposition à son éventuelle élection. La tâche de M. McCarthy, même s'il parvenait à gagner le vote initial entre les 247 députés du parti à la fin de ce mois, serait donc compliquée. Il a fait le compte et annoncé sa conclusion. Il dit avoir tout au long de cette campagne parlé à beaucoup de collègues et est parvenu à la conclusion que pour sauvegarder l'unité du bloc républicain, il faut un visage nouveau. Il a donc fait le retrait de sa candidature. Pour le député Charlie Dent de la Pennsylvanie, McCarthy doutait qu'il pût obtenir les 218 voix nécessaires à la Chambre, d'autant qu'un groupe de 40 conservateurs, baptisé Bloc de la Liberté, s'est solidarisé avec un autre candidat, David Webster de la Floride. Attendons voir.
La Minute Éco avec Anastasie Toudiech.
Réhabilitation à 560 milliards de francs CFA, soit 854 millions d'euros pour le port autonome d'Abidjan, acronyme PAA. Modernisation des quais, construction d'un deuxième terminal, les travaux, financés à 85% par la Chine, viennent de commencer et devraient durer 4 ans. Le port, rénové, pourra traiter 8500 conteneurs et accueillir enfin les grands armateurs asiatiques. Le PAA, déjà leader en Afrique de l'Ouest avec un trafic de 25 millions de tonnes par an, pourrait ainsi devenir le premier port d'Afrique subsaharienne. Rien ne va plus pour la Société africaine forestière et agricole du Cameroun. La SAFACAM a annoncé un chiffre d'affaires en baisse de 13% par rapport à 2013. Le résultat net de la société s'est établi à 1,8 milliard de francs CFA, soit moins 36%. Ces sous-performances s'expliquent par la chute des cours mondiaux du caoutchouc et de l'huile de palme de production de la SAFACAM. Et la chute du cours du pétrole, entraînant avec elle le caoutchouc naturel, n'augure pas d'amélioration pour 2015. Un oléoduc de 550 km et d'une capacité de 240 000 barils par jour va relier la côte de Djibouti au centre de l'Éthiopie. Le projet, estimé à 1,55 milliard de dollars, devrait être prêt fin 2018 et est le fruit d'un accord cadre entre Djibouti, l'Éthiopie, le capital investisseur américain Blackstone et la société sud-africaine MOGS, filiale de Royal Bafokeng Holdings, fonds souverain communautaire appartenant au Bafokeng, une ethnie sud-africaine.
Les sports à présent avec Eric Manirakiza. Football pour commencer, un Africain à la tête de la FIFA.
C'est le Camerounais Issa Ayatou, patron du football africain CAF, l'instance suprême du foot mondial, l'a désigné président par intérim de la FIFA après la suspension de 90 jours de Joseph Blatter. Issa Ayatou est aussi président de la commission des finances de la FIFA. Il n'est pas étranger dans ce club.
Mais les pouvoirs de M. Ayatou sont très limités.
Exactement, il n'a pas le droit de représenter la FIFA de quelque manière que ce soit, ni d'agir en son nom pour une durée de 90 jours de son intérim.
Un procès contre la star argentine du FC Barcelone.
Oui, Lionel Messi sera jugé prochainement pour fraude fiscale à Villanova, hein, la Gelutru, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Barcelone. Et Messi et son père risquent 7 mois et demi de prison chacun et à une amende d'un montant comparable à celui de la fraude. Toutefois, il est rare que les peines de prison inférieures à 2 ans soient mises à exécution en Espagne. Et très à l'aise financièrement, Messi, avec des revenus annuels de 47,28 millions d'euros, il n'aura pas de difficulté à rembourser 4,16 millions d'euros de taxes dont il ne se serait pas acquitté.
Enfin, l'Afrique du Sud fait honneur à l'Afrique dans la Coupe du Monde de rugby.
Oui, porté par Brian Abana en verve, le pays de Mandela a validé son billet pour les quarts de finale en ne faisant qu'une bouchée de pauvres Américains. 64-0, un score très lourd.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au +225 58 92 85 40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seroudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, où l'élection présidentielle est prévue le 25 octobre, quelques soucis, surtout après que le candidat indépendant Amara Issi, ancien ministre des Affaires étrangères, a suspendu sa participation à l'élection pour ne pas, a-t-il dit, se rendre complice d'une mascarade électorale. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Abidjan un membre de la société civile ivoirienne, le docteur Christophe Kwame.
Il y a quelques éléments qui peuvent entacher la crédibilité, comme la composition de la commission électorale indépendante, avec 4 membres de l'opposition et tout le reste des membres qui sont en faveur du président sortant. Nous avons le problème de la sécurité qui devrait être résolu avec une décision gouvernementale d'affecter 10 agents des forces de l'ordre à chaque candidat. Ce problème n'a pas encore pu être tranché, donc il subsiste encore des problèmes d'insécurité. Nous avons au niveau des bulletins, je veux dire de la technique même de comptage, de la technique même des éléments pour chaque candidat où il n'y a pas encore eu de discussion. Pour nous, pour moi, une élection doit être une socialisation entre le président sortant et les candidats de l'opposition.
Certains candidats ont préféré boycotter ces élections, donc faire la politique de la chaise vide. Quel est l'enjeu de ce scrutin, justement?
La chaise vide ne profite pas à ceux qui font la chaise vide. Le président sortant en a eu la meilleure expérience. Par contre, les enjeux aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire passe de 15 ans de crise à une élection avec un président sortant qui gagne ou qui perd, mais que tout le système administratif soit en place, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de crise post-électorale. Cela veut dire que les enjeux aujourd'hui seront le taux de participation. D'abord, avant le taux de participation, la diversité des candidats, parce qu'il y a un groupe qui veut boycotter. Donc, si la diversité et le nombre de candidats n'est pas excellent, cela va entacher la légitimité du futur président. Ensuite, le taux de participation, aujourd'hui, est l'un des plus grands enjeux. Et enfin, que la croissance économique ne soit pas entachée par une crise. Donc, ce serait intéressant que le leadership du président sortant s'exprime là maintenant pour lever les dernières barrières que l'opposition dans sa majorité souhaite. Il travaille pour les citoyens ivoiriens. Les opposants sont des citoyens.
Il y a apparemment beaucoup de dysfonctionnements, mais est-ce que ça pourrait, disons, provoquer ce que l'on a vu antérieurement, disons, des violences?
À la lecture de ce que nous observons sur le terrain, il y a moins de risques qu'on atteigne ce niveau-là de risque-là. Parce que en même temps que l'opposition au dernier moment demande une discussion et il est de la responsabilité du président sortant de donner cette possibilité, cette ouverture et d'arriver à des élections apaisées, une des responsabilités que nous pointons du doigt l'opposition, c'est que l'opposition a laissé tout le processus et à la fin, l'opposition réclame. Mais deuxièmement, en dépit de tout, qu'ils aient raison ou pas, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'un pays qui doit aspirer à sortir du cycle de crise.
Le docteur Christophe Kwame, membre de la société civile ivoirienne.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Présidentielle guinéenne, la haute autorité de la communication a interdit l'annonce ou la publication des résultats du scrutin du 11 octobre avant leur proclamation par la Commission électorale nationale indépendante. Jacques Aristide a recueilli les réactions du président de l'Association des blogueurs guinéens, Fodé Sanikaï Kouyaté.
Les décisions prises ces derniers jours, notamment pendant la période de campagne, venant de la HAC, consistaient à museler la presse. Il n'y a aucun mal à ce que les résultats soient diffusés. Ça s'est passé en 2010, les élections, il y avait plus de tensions. Ça a été diffusé, ça n'a pas créé de problème. Les élections législatives, ça a été diffusé dans les radios, ça n'a pas créé de problème. Le code électoral le dit immédiatement après le dépouillement que le président du bureau de vote doit rendre public le procès verbal et doit afficher une copie devant le bureau de vote. Tout le monde peut communiquer dessus. Donc ça n'a absolument pas de sens. C'est simplement liberticide. Donc ce n'est pas du tout légal. C'est un engagement qu'ils ont pris avec les autres médias.
Mais voilà ce que dit l'article 11 de la décision prise le 19 septembre par la HAC. Après la fermeture du dernier bureau de vote et jusqu'à la proclamation des résultats provisoires par la CENI,
aucun organe de presse ni l'OGP n'est autorisé à communiquer un résultat quelconque à travers un quelconque support. Ne pensez-vous pas que vous allez défier la décision de la HAC?
Non, ce n'est pas une décision démocratique, ce n'est pas une décision qui contribue à la liberté de la presse. Au contraire, ceux qui pensent être de problèmes, c'est eux qui vont créer des problèmes parce que quand les gens n'ont pas de bonnes informations, c'est les rumeurs qui vont prendre le dessus. Seule la CENI qui compile les résultats. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que dans un bureau de vote ou qu'on peut rester, faire des élections et attendre que la CENI nous diffuse les résultats. Alors que les citoyens qui sont dans les quartiers, qui sont tous des médias qui peuvent diffuser à des milliers de personnes qu'eux, ils ne communiquent pas le résultat de leur bureau de vote. Nous ne vont pas à l'encontre des décisions de la HAC, mais c'est une décision légale que les procès-verbaux soient rendus publics. C'est là qu'il faut placer le débat. Ça, c'est le code électoral qui le dit, en son article 82. Et les médias qui ont souscrit au programme de la HAC, ils peuvent discuter avec ceux-ci. Et parce qu'eux, ils ont accepté d'être muselés. Nous sommes dans une démarche citoyenne. Nous sommes là pour promouvoir la paix. Et c'est pourquoi nous sommes impliqués dans le processus électoral pour la transparence. Il ne s'agit pas de museler la presse parce qu'ils ne peuvent même pas, dans la mesure où les citoyens eux-mêmes, chaque individu est devenu un média. Chacun a un téléphone. Donc, à moins qu'ils donnent une autre image de la Guinée, qu'ils coupent tous les moyens de communication, vous pouvez interdire aux médias de ne pas diffuser. Mais qu'en est-il des citoyens? Ils le feront.
Fode Sanikaï Kouyaté, président de l'Association des blogueurs guinéens, joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Rwanda, le Parti démocratique vert a échoué dans sa tentative d'empêcher une réforme constitutionnelle qui ouvrirait la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame en 2017. Pour une analyse, Timothée Donamaï a joint à Montréal Chika Kanyuri, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique.
C'est pas étonnant, de toutes les façons, c'était prévisible, c'était écrit. La chose la plus surprenante qu'on ait d'ailleurs permis cette procédure, puisqu'on sait que, comme c'était dans les années 70 en Afrique, lors des partis uniques, on sait que les décisions, toute la mise en scène qui est faite ne vaut pas grand-chose. On sait que les décisions sont déjà prises. Mais on fait semblant de donner la parole au peuple pour essayer de faire semblant de donner quand même une procédure légale à des décisions qui sont déjà prises par le régime. Ce qui est quand même malheureux, c'est que quelqu'un comme Kagame, avant, il a quand même, on sait qu'il a dirigé ce pays dès la fin de la guerre, et puis même il n'était pas président, mais il contrôlait déjà tout. Donc, ça veut dire qu'il aurait pu au moins faire la même chose comme Poutine en Russie, c'est-à-dire il aurait pu rester, c'est pas chef du parti, puis laisser quelqu'un pour respecter un peu des formes. Mais je pense qu'il y a probablement des gens extrémistes de son coin, de son groupe, qui ont voulu absolument qu'il garde toute la main ouvertement sur tout.
Qu'est-ce que l'échec de cette requête du Parti démocratique des Verts signifie pour l'avenir politique du Rwanda?
C'est clair, l'avenir politique du Rwanda, c'est qu'il est de toutes les façons. On sait que M. Kagame, il sera là tant qu'il le voudra jusqu'à présent. C'est-à-dire, mais ce qu'on peut quand même retenir comme leçon, c'est que pour la première fois depuis 3 ou 4 ans, on sent que le groupe de son ethnie, c'est-à-dire les Tutsis, on finit par reconnaître qu'ils ne sont plus unanimes comme ils l'ont été pendant presque 20 ans. Et donc, ils ont fini par comprendre que c'est une dictature et qu'il faut la traiter comme telle. Pendant longtemps, on s'est arrangé pour opposer les Hutus et les Tutsis. Mais aujourd'hui, les grands opposants au régime de Kagame sont des Tutsis, dont certains ont été même assassinés à l'étranger, vous le savez. Et donc, ça veut dire que finalement, ils ont fini par comprendre que ce régime n'est pas démocratique. Mais pendant longtemps, on lui a donné cette formule-là qui faisait que au moins on pensait que tous les Tutsis le soutenaient. Et je pense que c'est à l'honneur de beaucoup de démocrates Tutsis, finalement.
Chika Kanyuri, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique, joint à Montréal.
La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM.
Au Tchad, grogne au sein des syndicats des travailleurs du secteur public à cause de la crise financière que traverse le pays. Face à cette situation, a été organisée cette semaine une rencontre de réflexion sur la stratégie de mobilisation des ressources et de maîtrise des dépenses publiques. Le point avec André Kotmajingar.
Le Tchad traverse une crise financière pour trois raisons principales. La chute du prix de baril du pétrole, son intervention au Mali qui a coûté 200 milliards de francs CFA et son engagement militaire contre le groupe d'État islamique ex-Boko Haram qui se chiffre à environ 12 milliards de francs CFA par mois. Situation qui ne permet pas à l'État tchadien de payer le salaire des fonctionnaires à terme échu, la bourse des étudiants, les pensions de retraités et de verser le subside des maîtres communautaires. Cette rencontre de deux jours a débouché sur l'application d'une feuille de route visant entre autres à supprimer les téléphonique de l'administration à l'international, de suspendre les évacuations sanitaires et de réduire de 50% les indemnités des membres des institutions de la République pour les trois derniers mois. Ngarlena Dogjengar est le ministre des Finances et du Budget.
Les indemnités de haut cadre d'État, c'est une question qui a fait beaucoup de débats. Mais au niveau du gouvernement, nous nous sommes dit c'est un geste qu'il faut le faire pour faire comprendre à l'opinion quelles sont les difficultés où nous sommes confrontés. Au titre de l'année 2014, nous avions dépensé 2,4 milliards pour les évacuations sanitaires. Il était question de limiter, surtout pour les cas d'urgence et en cas de besoin, faire recours à nos structures sanitaires de la place.
Cette panoplie de textes contenus dans cette feuille de route est une imposition du gouvernement, estime Aladoum Balthazar Djarma, porte-parole adjoint de la Convention pour le changement et l'alternance démocratique.
On pensait à faire des commissions pour que les gens s'expriment librement et prennent des décisions conséquentes. Malheureusement, nous sommes rendus compte qu'on a été devant un dictat, des résolutions d'une feuille de route qui n'ont pas été adoptées, mais pratiquement imposées, parce que la majorité de l'Assemblée n'a pas été entendue. Nous sommes en train de jouer au médecin après la mort. Donc, en ce moment, toutes ces mesures prises, leur application posera un problème.
Pour le Premier ministre Kalzebe Paimi Debe, l'adoption de cette feuille de route est un pari gagné pour le gouvernement.
Ce qui importe pour nous, c'est la définition des actions issues de l'épreuve de vérité que nous nous sommes imposées. Les résultats encourageants auxquels nous sommes parvenus nous déterminent davantage à l'amélioration continue de notre gouvernance financière, sous-entendu par les principes de rigueur dans la gestion de la fortune publique.
Une commission a été mise en place pour suivre l'application intégrale de cette feuille de route pour permettre de réduire le train de vie de l'État, mais aussi d'avoir des ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements. André Koduma Dingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
La bousculade de Mina, les pèlerins camounais ont commencé à revenir chez eux. Ils disent avoir accompli un devoir spirituel malgré le malheur qui a frappé leurs compagnons de voyage dont certains n'ont pas encore été retrouvés. Le reportage à Yaoundé de notre correspondant Moki Edouane Kenzeka.
Ambiance bon enfant à l'aéroport international de Garoua. Le premier contingent de pèlerins camerounais bénit Allah qui les a protégés contre la bousculade qui a endeuillé de nombreuses familles pendant leur séjour d'un mois à la Mecque.
On remercie le bon Dieu beaucoup parce qu'on a souffert, mais Dieu merci, on est rentré.
Nous avons voyagé, on a beaucoup risqué, mais on est rentré. Dieu merci.
On a bien voyagé comme partout, tous les groupes là. Il n'y a aucun groupe qui n'a pas perdu sa personne. Ce n'est qu'un autre groupe. On remercie au bon Dieu.
Les nouveaux Aladji et Adja sont contents de retrouver leur famille, mais avec un pincement au cœur lié au malheur qui a frappé les compagnons de voyage.
Moi-même, j'étais tombée, c'était grave, grave, très grave. Vraiment, on a eu la chance, mais je suis tout blessé.
L'accident-là est arrivé comme ça, on ne sait même pas. C'est comme un mystère, mais on ne sait pas c'est quoi qui a tué les gens là-bas, on ne sait même pas. Parce que devant nous et derrière, nous, on était au milieu, nous sommes sortis.
Nous étions au milieu de ce qui s'est passé, quelque chose vraiment pas bien. C'est l'étouffement, le soleil, 47 degrés, et puis aussi tout le monde sur une même rue. Et voilà, c'est ça qui a causé ça.
Les autorités camerounaises se sont mobilisées pour l'événement. Le gouverneur du Nord est à l'aéroport pour les accueillir. Jean Abate Eddy est cependant habité par un sentiment mitigé.
Nous ne pouvons que nous réjouir comme un père qui accueille ses enfants qui étaient partis en voyage et qui reviennent à la maison. Mais en même temps, nous ne pouvons pas être insensibles à tous ces événements malheureux.
Environ 5000 Camerounais ont pris part au pèlerinage à la Mecque. Les autorités saoudiennes parlent de 41 morts, alors que le gouvernement camerounais parle de 21. 70 de ces pèlerins ont été déclarés disparus. Moki, Edwin Kinzeka, Yaoundé, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Serudia et d'Anne Albertson. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.